C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 16 novembre, bonne journée et bienvenue au 98.5. Alors, c'est la première bordée de neige pour le Grand Montréal, une accumulation prévue aujourd'hui, 5 à 10 cm. Marc vous le disait, là, pour la Rive-Sud, il n'y a pas vraiment de problème ce matin. Rive-Nord, c'est plus glissant. J'ai reçu quelques courriels d'automobilistes qui ont fait le parcours plus tôt et c'est problématique, il y a eu donc accrochage. Et ça amène quand même des bouchons de circulation plus importants. Mais en gros, de la neige pas mal toute la journée avec des vents de 20 à 40 km/h. Le maximum aujourd'hui autour de 1 degré. Cette neige devrait se terminer en fin de soirée. Le ciel demeure nuageux pour la nuit avec un minimum de moins 2. Et puis demain jeudi, du temps nuageux avec quelques périodes de vent, maximum de 1 degré. Puis on complète la semaine avec périodes nuageuses, peut-être un peu de neige ou de la pluie. Ça reste à voir pour vendredi, pour le week-end, notre havre de paix. Samedi, dimanche, à peu près le même scénario. Soleil, nuage avec des températures autour de 2 degrés. D'abord, parlons bien sûr de ce qui se passe Pologne-Ukraine. Vous le savez, il y a un missile qui a touché la Pologne hier. Et depuis ce temps, ben évidemment, c'est le branle-bas de combat. On tente de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et si j'ai à résumer ce matin les dernières informations, les infos les plus fraîches, les différentes sources indiquent que c'est un tir ukrainien. Donc, c'est un missile qui a été tiré par la défense ukrainienne dans le but d'abattre un projectile russe et finalement, donc, aurait raté la cible et touché le territoire polonais. Parce que hier, beaucoup de spéculations, les Russes étaient pointés du doigt, ce qui a amené la convocation d'urgence du sommet de l'OTAN, donc réunion à Bruxelles, et aussi réunion du G7 en marge du G20. C'est le président Biden, entre autres, qui a mis de la pression pour que ça se fasse. Et tout ça arrive dans un contexte assez intéressant, où de plus en plus, on sent une ouverture de pays près de Moscou. On pense à la Chine, on pense à l'Inde, pour tenter d'influencer Poutine et de trouver une voie de passage, une espèce de compromis pour mettre fin à cette guerre qui a des impacts économiques majeurs, on le sait, des impacts humains, évidemment. Mais cette situation-là qui dure et qui perdure affecte la planète entière. Et ces deux joueurs majeurs, la Chine et l'Inde, étaient demeurés beaucoup sur les lignes de côté. Et on sent ce matin, avec les dernières déclarations, je pense entre autres au président Macron, qui a dit l'Inde et la Chine peuvent et doivent être des éléments clés dans la solution de ce conflit. Alors voilà pour ce qui est de ce missile qui a touché la Pologne et qui a suscité beaucoup de craintes. Un mot également sur ce sommet auquel participe M. Trudeau. Il y a eu ce face-à-face avec le président chinois, Xi Jinping, qui laisse assez clairement voir le changement de ton du Canada à l'endroit de la Chine. On se retrouve avec M. Trudeau, qui évidemment regarde le président chinois, qui paraît-il n'a pas apprécié que M. Trudeau parle publiquement d'une rencontre privée. Il y a eu comme deux rencontres, une en privé, l'autre espèce de... On se croise dans la sphère publique. Et M. Trudeau qui dit, vous savez, on peut se parler, mais on aura quand même des désaccords. Tout ça, compte tenu du fait qu'il y a ces informations qui veulent que la Chine ait perturbé le système électoral, c'est-à-dire infiltré en envoyant de l'argent, des lobbyistes. Et cette tendance qu'a la Chine, évidemment, de se mettre le nez un peu partout. Puis on le voit avec l'histoire de l'espion chez Hydro-Québec qui a comparu hier en passant puis qui demeure détenu. Donc, c'est un changement de ton. Jean-François Lépine disait hier avec justesse, le Canada, au cours des dernières années, a fait preuve d'une grande naïveté face à la Chine. Et on a vu des crises où le Canada, malheureusement, avait le dos courbé et n'était pas, disons, très prudent face à la Chine. Puis la Chine en profite. Jean-François disait, les Chinois vont respecter ceux qui se tiennent droit, ceux qui sont debout et non pas ceux qui, peut-être, se font intimider. Alors, c'est un changement de cap de la part du Canada. Maintenant, je vais vous parler de ce dossier publié dans la presse et ce balado ici au 98.5 de Marie-Ève Tremblay. C'est une enquête menée avec Isabelle Haché concernant l'affaire Julien Lacroix il y a 2 ans. On replace ça dans le contexte. Donc, il y a 2 ans, 9 femmes disent avoir été victimes de l'humoriste Julien Lacroix. Des femmes qui témoignent à visage découvert, dans d'autres cas, ce sont des témoignages anonymes. C'est évidemment un tsunami. Julien Lacroix, un humoriste adoré, perd tout, contrat, perd son entourage et se retrouve au banc des accusés. 2 ans plus tard, ces jeunes femmes, pas toutes, mais plusieurs d'entre elles sortent, notamment son ex-conjointe, qui s'est retrouvée un peu au cœur de l'histoire. Son ex-conjointe qui a passé 6 ans avec lui et qui témoigne, Geneviève Morin, en disant « J'ai pas été violée par Julien Lacroix, il a dépassé ma limite. » Je fais entendre quelques-unes de ces victimes alléguées de l'époque ce qu'elles disent aujourd'hui de l'expérience qu'elles ont vécue.
J'essayais de me dire, je suis une victime. Il faut que je tienne mon bout de victime parce que j'ai du poids, j'ai tellement de poids, je viens de gâcher la carrière de quelqu'un à... Tu sais, je suis 1 sur 9, là. Je ne veux plus être dans les 9. Je me sens tellement hypocrite d'être dans les 9 personnes.
J'ai envie de dire, je ne suis pas une victime. Je ne sais pas à quoi ça a servi, mais... Des clics...
Après ça, avec du recul, je me questionne, est-ce que c'était parce que moi, personnellement, j'avais vécu une expérience avec Julien, puis que j'étais fâchée, puis là, est-ce que, tu sais, c'était un désir de vengeance et tout? Je me suis vraiment, vraiment questionnée là-dessus.
Tu sais, quand j'ai lu le titre, là, comme le 9, puis là, on dirait qu'après ça, tu lis l'article, puis j'étais comme... vraiment, là, je suis tombée, là, tu sais, mes jambes m'ont lâchée. Je me souviens que... Est-ce que la personne avec qui je suis, c'est un monstre?
Bon, il faut évidemment mettre ça dans un contexte. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire aux femmes de parler pas, puis de décourager, en fait, la dénonciation d'abuseurs. Mais c'est de remettre ça en perspective, puis dire 2 ans plus tard, voilà des femmes qui ont subi une pression. La pression de dénoncer. Si tu dénonces pas, tu es du côté des abuseurs. Donc, tu dois parler. C'est beaucoup ce qui se dégage des témoignages, cette espèce de pression. Tu fais une confidence à quelqu'un, qui en parle à quelqu'un d'autre, qui dit « t'aimerais-tu ça parler à une journaliste pour raconter ce qui t'est arrivé? » Et tu penses pas nécessairement que tu vas te retrouver, comme le cas de l'ex-conjoint Geneviève Morin, comme le cœur de l'affaire. Elle a été 6 ans avec lui. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Vous avez été victime d'abus, vous avez le droit de le dire, on a le droit de vous croire, puis vous avez le droit de porter plainte. Mais en même temps, il y a comme 3 niveaux. Le premier, porter plainte à la police. Le deuxième, une enquête journalistique. Puis le troisième, dénonciation sur les réseaux sociaux. Des noms qu'on lance, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quelle est la nature des faits reprochés. Et ça vient comme détruire des réputations. On va écouter Julien Lacroix qui parle de l'impact de ces dénonciations sur lui.
Mon deuil de... Tu sais, je sais, je retournerai pas aux Gémeaux, puis que mon deuil de ça, là, dans la vie, puis de mon métier, puis de mon rêve de petit garçon, il est vraiment entamé, là. Moi, c'est plus de retrouver une ouverture à recommencer une vie qui se peut.
Bon, soyons clairs, c'est pas une opération pour réhabiliter Julien Lacroix. En résumé, Julien Lacroix est un alcoolique qui, depuis... est allé en thérapie. Problème de consommation de drogue. Un jeune homme qui a eu le succès rapide et qui, je dirais, en a profité. OK? Disons quelqu'un, là, qui prend un coup, qui tasse les filles, qui les embrasse, puis qui s'impose, puis qui peut être désagréable au point de se faire sortir des bars. Alors, est-ce que poser des gestes qui n'ont pas d'allure, répréhensibles, il est lui-même le premier à le dire? Mais est-ce que il a été victime? En fait, est-ce qu'il a fait 9 victimes comme l'a prétendu le devoir? La réponse est non. Et là, je suis pas en train de porter un jugement sur l'enquête journalistique. Mais t'écoutes ça puis tu te dis, est-ce qu'on a un peu soufflé le ballon? Deuxièmement, le devoir a eu la possibilité de s'expliquer dans ce balado puis dans l'entrevue avec Isabelle Haché à la presse. Puis la réponse, ça a été envoyez-nous les questions puis on verra après. Excusez-moi, là. Mais venant d'un journal comme Le Devoir, de demander à l'avance les questions pour savoir si je réponds, ça tient pas la route, là. C'est pas normal, là. C'est pas une pratique. Ils seraient les premiers à dénoncer ce genre de pratique-là. C'est pour le moins bizarre. Mais la beauté de cette enquête, de ce balado, c'est de nous faire réfléchir sur les impacts. Et l'autre question que ça pose, veut pas, une sentence populaire, ça dure combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que sa vie professionnelle est complètement dans le champ. Est-ce que ce gars-là a le droit de revenir? Et ce qui est assez étonnant aussi de voir, ben étonnant, peut-être pas tant que ça, on pointe du doigt Lacroix pour sa violence sexuelle. Puis il y a une partie des gens qui utilisent de la violence à son endroit. Tu comprends? Tu réponds à de la violence présumée par de la violence, des menaces de mort. On va briser ta carrière, on touche et on vise sa famille. C'est le moment d'en jaser. Et on va en reparler tantôt avec les deux journalistes, mais je trouve ça important aussi de dire, là, t'es au pilori pendant combien de temps? Est-ce que Julien Lacroix a été un vulgaire personnage, sabrosse, saoul, désagréable? Sans doute. Certainement même. Mais est-ce que c'est un prédateur sexuel dans la nuit? Est-ce que c'est un agresseur en série? Tu sais, quand quelqu'un, je vais terminer là-dessus, là, l'humoriste Rosalie Vaillancourt qui dit, il a levé ma jupe, m'a embrassé. L'agent des deux artistes qui étaient présents quand c'est arrivé dit, oui, mais elle précise pas qu'elle venait de lui prendre le pénis. C'était comme, on se taquine. Tu me prends le pénis, je lève ta jupe dans un party. C'est-tu une agression sexuelle? Puis c'est qui la victime? C'est lui, c'est... Discussion au menu pour la journée. Donald Trump, c'était prévu, c'est été officialisé hier soir, sera candidat pour l'élection présidentielle de 2024. Et si on résume son discours, ben c'est, je dirais, la recette habituelle, c'est-à-dire beaucoup d'exagération sur ses performances comme président, le résultat de ses politiques, et aussi des mensonges et beaucoup d'exagération. On est habitué là au style Trump. Et ça arrive, cette annonce officielle, alors qu'on sort des élections de mi-mandat, où le Parti républicain n'a pas connu les succès et même a perdu des plumes, s'attendait à pas mal mieux que ça. Et beaucoup visent Trump en disant qu'il est devenu pas juste peut-être un avantage pour certains candidats-candidates, mais une espèce de poids que le Parti républicain traîne et qui fait que le parti n'arrive pas peut-être à décoller. Et là, c'est la confrontation entre Trump et, jusqu'à maintenant, le gouverneur de Floride, DeSantis. Alors, Trump annonce sa candidature. Plusieurs personnes auraient tenté de le décourager. Et on se dit, mais est-ce qu'il se présente pour les bonnes raisons? Parce qu'il veut vraiment en découdre avec Biden? Ou si c'est pour ralentir, placer un peu au neutre les nombreuses enquêtes criminelles qui le concernent? Les entreprises Trump, les fameux documents confidentiel qu'il a traîné avec lui en Floride. Il y a actuellement une série d'enquêtes, de procédures le concernant. Et le fait qu'il annonce comme ça très rapidement sa candidature, ça vient comme peut-être de geler un peu la situation. Alors, ce sera à suivre, évidemment, dans les prochains jours. Dans les autres nouvelles, André Boisclair, on vous en a parlé. Déjà, des gens disent comment ça se fait qu'on peut être éligible au 6e de la sentence. Ben, c'est ce qui est prévu. Mais ce qu'on est étonné de voir un André Boisclair suffisant, arrogant, baveux, méprisant, en disant « je n'ai pas à perdre du temps dans une thérapie avec des analphabètes », c'est à peu près ce qu'il dit, là. J'ai un niveau intellectuel quand même trop élevé pour ça. Et la commission des libérations conclut qu'il est un risque de récidive très, très élevé. Il reconnaît ce qu'il a fait, mais il veut pas suivre de thérapie parce qu'il a peur aux fuites. Puis bon, c'est sûr qu'il a dû avoir un petit choc en prison, M. Boisclair. On n'est pas dans les salons feutrés, là, pis on n'est pas dans la grande vaisselle. Là. C'est un autre univers. Puis ça doit pas être le genre, disons, à impressionner les autres détenus avec qui il doit cohabiter. Alors, il va faire une autre tentative, évidemment, un peu plus tard. Aussi, ce matin, la santé publique a présenté hier son espèce de bilan. Et bon, la question qui est toujours la toile de fond, là, le fameux port du masque dans les endroits publics, Le premier ministre Legault a dit très clairement, il n'est pas question de rendre ça obligatoire pour le moment, là, mais c'est pas dans les cartons. Et Dr Mylène Drouin, qui est la directrice de la santé publique de Montréal, avec qui on va parler tantôt, dit essentiellement que on le conseille fortement dans certaines circonstances. Et peut-être notamment pour ce qui est des activités à l'intérieur ou dans des endroits où on se retrouve avec beaucoup d'enfants malades. Alors j'aurai l'occasion de regarder avec elle l'ensemble de la situation ce matin. Voilà pour ce qui est de la revue de presse.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Nous revenons ce matin sur l'affaire Julien Lacroix, 2 ans plus tard. Il faut se rappeler que l'humoriste, qui était au sommet à ce moment-là, a fait l'objet d'une enquête dans le journal Le Devoir, où 9 jeunes femmes ont fait des témoignages, parfois à visage découvert, parfois dans l'anonymat, pour dénoncer les agressions et les inconduites sexuelles de Julien Lacroix. Par la suite, le verdict a été clair, sans appel, il a tout perdu. Et depuis ce temps, donc, il vit en marge, si on veut, de l'industrie du spectacle. Et vous allez tantôt l'entendre nous parler des impacts donc qu'il a subis. 2 journalistes sont avec nous ce matin pour nous parler de ces jeunes femmes qui, avec 2 ans de recul, ont un regard différent sur ce qui s'est passé. Je vous les présente. Notre collègue Marie-Ève Tremblay, qui est journaliste ici dans l'émission de Luc Ferrandez. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Paul.
Et Isabelle Haché de La Presse. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Ève, je commence avec toi. Donc, des jeunes femmes qui, à l'époque, ont fait des témoignages et qui, aujourd'hui, disent « Attention, c'est peut-être aller trop loin.
Mm-hmm. » Cette histoire-là, pour qu'on sorte ça aujourd'hui, c'est vraiment partie d'un message publié sur les réseaux sociaux de Geneviève Morin. Geneviève Morin, c'est l'ex-blonde de Julien Lacroix. Puis, dans la dénonciation, il y a 2 ans, c'était vraiment elle qui était centrale. Son témoignage à elle était central dans la dénonciation. On pouvait lire qu'il l'avait agressée sexuellement. Et puis, ça frappait vraiment l'imaginaire de lire son témoignage. Et puis, au début du mois d'octobre, elle en a pris plusieurs par surprise en publiant un long message sur Instagram dans lequel elle disait, en gros, avoir des regrets par rapport à toute cette histoire-là. Elle dit qu'elle a senti qu'elle a été instrumentalisée en général par les médias et qu'elle en ressort plus fragilisée. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh wow, tu sais, 2 ans plus tard, avec le recul, elle a une vision différente de toute cette histoire-là. Donc, ça m'a donné envie de creuser un peu plus, d'aller plus loin pour voir, tu sais,
est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, puis il y a une...
On va écouter quelques extraits du balado, donc des extraits de témoignages de ces jeunes femmes qui font une réflexion un peu différente aujourd'hui.
J'essayais de me dire, je suis une victime. Faut que je tienne mon bout de victime parce que j'ai du poids, j'ai tellement de poids, je viens de gâcher la carrière de quelqu'un à... Tu sais, je suis 1 sur 9, là. Je ne veux plus être dans les 9. Je me sens tellement hypocrite d'être dans les 9 personnes.
J'ai envie de dire, je ne suis pas une victime. Je ne sais pas à quoi ça a servi, mais... des clics?
Après ça, avec du recul, je me questionne, est-ce que c'était parce que moi, personnellement, j'avais vécu une expérience avec Julien, puis que j'étais fâchée, puis là, est-ce que c'était un désir de vengeance et tout? Je me suis vraiment, vraiment questionnée là-dessus.
T'sais, c'est quand j'ai lu le titre, là, comme le 9, puis là, on dirait qu'après ça, tu lis l'article, puis j'étais comme... Vraiment, là, je suis tombée, là. T'sais, mes jambes m'ont lâché. Je me souviens que... Est-ce que la personne avec qui je suis, c'est un monstre?
Isabelle Haché, comment ces jeunes femmes-là étaient des victimes il y a 2 ans? Puis comment aujourd'hui elles disent, ben finalement, je suis pas une victime?
Je pense qu'il y en a qui, dès le départ, avaient dit qu'ils étaient pas des victimes, puis qui se sont retrouvés quand même là-dedans. Je pense qu'il y en a aussi qui ont évolué. Au bout de 2 ans, elles ont vu tous les impacts négatifs que ça a eu, draconiens en fait, que ça a eu sur Julien Lacroix, puis ils se sont dit... Ils ont regretté, en fait. Ils ont regretté tout l'impact qui était dévastateur pour Julien Lacroix, alors qu'elles considéraient que leur témoignage était peut-être plus anecdotique. On en a une en particulier qui nous dit que, dès le départ, son témoignage était vraiment... Elle était même gênée. Elle a témoigné de façon anonyme parce qu'elle avait trop honte de son témoignage. Elle trouvait que son témoignage était trop anecdotique, était trop banal, insignifiant. Donc, elle a dit « Je ne veux pas mettre mon nom là-dessus ».
Mais elle a été incluse.
Elle a été incluse quand même parce qu'elle a quand même donné son témoignage. Donc, ce qui s'est passé, c'est sur le coin de la rue à 3h du matin, en venant du travail, elle a rencontré Julien Lacroix qu'elle connaissait. Il lui a demandé un peu à la blague, ben pas à la blague, mais en fait, sur un ton assez badin, « Viens-tu chez nous, viens-tu chez nous? » Il a insisté un peu, il a donné un bec sur la bouche. Elle a dit « Non, 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 mon chum m'attend chez nous. » Mais elle lui a avoué 3 ans plus tard que si elle avait pas eu de chum, elle serait allée chez lui. Donc, tout son langage corporelle, ce qu'elle nous disait, c'est que oui, elle avait envie d'aller chez lui, mais elle n'est pas allée parce que c'était une bonne blonde. Donc, son témoignage est assez frappant parce qu'elle nous dit que finalement, avec le recul, elle n'aurait jamais dû faire ça. Mais elle a été emportée dans une espèce de tourbillon.
Je pense que c'est le point sur lequel il faut insister, là. C'est-à-dire qu'on a des jeunes femmes qui, en tout cas en écoutant le balado, lisant le document, ont eu de la pression des pères, c'est-à-dire choisis ton camp. Si tu parles pas, t'es du bord des agresseurs. Même si c'est anodin, ça vient ajouter à une rumeur qui va devenir un fait. C'est peut-être pas grand-chose, mais d'autres ont vécu pire avec Julien Lacroix. La pression venait d'un milieu autour d'elle, non?
Oui, c'est vraiment ce qui ressort, je dirais même dans la plupart de nos entrevues, peu importe où les personnes qui ont commenté se situent là, dans toute cette histoire-là, c'est qu'il y avait une forme de pression, surtout à l'été 2020 ou dans le milieu, de dire si tu as vécu une expérience, peu importe quelle expérience c'est, collectivement d'en parler, fais en sorte que tu aides le mouvement, que tu es une alliée du mouvement. Si tu as vécu quelque chose comme, par exemple, l'anecdote que Isabelle vient de raconter, puis que tu n'en parles pas, ben là, c'est comme si tu étais perçue comme complice des agresseurs. Alors, c'est comme s'il n'y avait pas d'entre-deux, s'il y avait une pression de ne pas se taire d'une certaine manière. Puis vraiment, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on a compris, Isabelle et moi, au fur et à mesure qu'on a fait des entrevues. Moi, ce qui m'a frappée, il y a une femme là-dedans qui revient tout le temps, elle s'appelle Audrey-Anne Dugas. Audrey-Anne Dugas ne fait pas partie des victimes, mais dans aucun article, j'étais comme, c'est qui cette fille-là? Pour finalement comprendre qu'elle avait parti un mouvement qui s'appelait Pour les prochaines, pour dénoncer des comportements dans le milieu de l'humour, ben elle avait comme un combat, c'est-à-dire rendre justice, faire le ménage des agresseurs et tout ça. Donc, elle a été impliquée dans le sens où elle a entendu des témoignages, elle en a recueilli, elle a mis des gens en contact. Puis ça, c'est fou quand on comprend comment ça a fonctionné, en fait, derrière. Mmh.
Ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle-même, finalement, à l'été 2020, elle a été dénoncée elle-même. Elle s'est retrouvée sur la fameuse liste « Dit son nom » sur Internet. Puis à ce moment-là, tous ses alliés ont coupé les ponts. Elle a cessé de collaborer avec Le Devoir. Et puis, elle s'est retrouvée là, un peu dans la même situation que Julien Lacroix, ce qui est quand même assez ironique.
Puis ça, on l'entend dans son témoignage. Mmh. C'est intéressant parce qu'elle l'a vécu des deux côtés. Alors, elle parle aussi de quel effet ça a eu sur sa vie à elle aussi d'être dénoncée comme ça. Elle, son nom a été écrit sur une liste. Elle n'a jamais su vraiment qui avait parlé et tout. Donc, elle a eu des menaces.
Elle a eu le même traitement, là.
Oh oui, le même traitement. Puis elle en parle. Puis son regard, 2 ans plus tard, est super intéressant par rapport à
ça. On va revenir à Geneviève parce que c'est vraiment son témoignage qui s'est retrouvé au cœur de l'enquête, là, puis au cœur de la présentation des faits. Donc, elle a été la conjointe pendant 6 ans de Julien Lacroix.
Non, avec le recul, je ne le referais pas. Mais avec le recul, là, je parle de Geneviève 2022 qui connaît la justice réparatrice, puis qui a goûté et qui a... C'est ça, la vraie solution. C'est de s'asseoir puis réparer, là. Puis j'ai pas l'impression aujourd'hui que la conversation a fait avancer les choses. J'ai pas l'impression qu'il y a une conversation sur les dénonciations qui a été faite. J'ai l'impression qu'il y a un constat social qui est fait. On les déteste, on les haït, on les cancelle. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie justice réparatrice dans la société, là.
On va mettre quelque chose au clair. Julien Lacroix n'est pas un saint homme, là. Julien Lacroix, là, si on résume, c'est une jeune star de l'humour qui a consommé de l'alcool, de la drogue, qui a eu des comportements qui n'ont pas d'allure, là, qui a été un trou de cul, là, on se le dit franchement. Là.
Oui, puis je pense que là, c'est le bon moment pour dire que Isabelle et moi, on s'est pas lancé là-dedans dans l'idée de dire s'il devrait revenir ou pas, là, dans l'espace public. On le fait pas non plus pour dire s'il a posé ou pas les gestes qui lui sont reprochés. Là. C'est vraiment pas ça. Mais ce qu'on comprend, c'est que Julien Lacroix, là, il s'en allait droit dans un mur. C'est juste qu'il pensait pas que c'était ce mur-là qui allait frapper, parce qu'il y avait de réels problèmes de consommation. Puis ça, on le comprend. Puis ça a apporté beaucoup de problèmes dans sa vie.
quand j'écoutais le balado hier, je me disais, au terme de ça, sur les 9, il y en a combien de vraies victimes, là, qui, tu sais, parce que tu dis, là, OK, ben, moi, je suis pas une victime, moi, je suis pas une victime. Il y en a combien sur les 9?
Ça, c'est une très bonne question. Puis, je pense pas que nous, on peut répondre à ça. Évidemment, une agression sexuelle, moi, si quelqu'un me met la main au derrière, selon la loi, c'est considéré comme une agression sexuelle. Donc, je pense que les gens... Puis moi, je peux le prendre autrement. Donc, ça fait partie vraiment des femmes elles-mêmes. Si elles considèrent qu'elles ont été victimes, c'est difficile de remettre leurs paroles en doute. Puis nous-mêmes, on n'est pas là pour remettre leurs paroles en doute. Là. C'est pas ça qu'on voulait faire dans ce reportage-là. Il y en a combien? Je veux dire, le consentement aussi, ça, c'est toute une histoire. Sur les 9... Ben, si on peut les mettre en catégorie, là, les 9 de l'enquête du devoir. Il y en a 5 que c'est des inconduites dans des bars ou sur le coin de la rue. Il a essayé d'embrasser des filles. C'est des filles qu'il connaissait en général. Ben, toutes les, non, pas toutes, mais en tout cas, c'est ce qu'il faisait dans les bars. Sinon, il y a Geneviève Morin, qui était son ex-conjointe. Mmh. Puis il y en a 3 que c'est des filles où ça s'est passé à l'époque du secondaire. Donc, Julien Lacroix était mineur à cette époque-là. Les filles aussi étaient mineures. Ils étaient en secondaire 4, secondaire 5. Puis on parle de consentement qui n'a pas été respecté, mais on savait pas vraiment c'était quoi le consentement à cette époque-là. Donc, c'est tu sais, Julien Lacroix, lui, en fait, ce qu'il plaide, c'est que moi non plus, je savais pas. Les filles nous disent... Ben la fille qu'on a interviewée nous dit ben moi j'étais pas sûre, je savais pas que c'était une agression à cette époque-là, je l'ai compris beaucoup plus tard à l'université et tout ça. Donc Julien Lacroix, lui, ce qu'il dit, ben c'est que lui non plus il savait pas que c'était qui avait dépassé le consentement. Là après ça, nous on n'était pas là, on n'était pas.
Mais il y a un témoignage, hein, c'est l'humoriste Rosalie Vaillancourt qui disait à un moment donné, il a levé ma jupe et tout ça, et l'agente des deux là, qui est la même personne qui représente Julien Lacroix puis Rosalie Vaillancourt, précise, elle vous a pas dit que quelques minutes avant, elle lui a pris le pénis, puis lui, après ça, il a levé la jupe, puis ça avait l'air d'un jeu entre les deux.
Oui, oui. C'est un jeu qui durait depuis longtemps, ce qu'elle nous a dit, c'est que c'était comme qui allait pousser la vulgarité un peu le plus loin. C'était deux humoristes qui étaient un peu là-dedans, dans ce genre d'humour-là. Donc, eux, il y avait ce jeu-là entre eux depuis plusieurs années. Là. Donc, c'est... je sais pas, moi, Rosalie Vaillancourt prend les mains de Julien Lacroix, les met sur ses seins, puis crie « Au viol, au viol! » Puis c'est drôle, tu sais. C'est des blagues comme ça qu'il faisait. Donc, c'est sûr que avec le contexte...
C'est ça, le contexte.
Le contexte, c'est tellement important. Puis dans l'enquête du devoir, il n'y en a pas de contexte. Zéro contexte. On ne sait pas ce qui est arrivé avant, on ne sait pas ce qui est arrivé après, on ne sait pas ce qui... la relation que Geneviève Morin avait avec Julien Lacroix, tout ça. Je comprends qu'une agression sexuelle, ça n'a pas besoin de contexte, là. Mais dans certains cas, je pense qu'il fallait du contexte.
On est dans les grandes nuances. Ouais. Là.
Puis Rosalie Vaillancourt l'a dit dès le début, hein, qu'elle n'était pas victime, mais elle est quand même comptabilisée dans les 9. Est-ce qu'elle dit, c'est qu'elle a accepté de parler parce qu'elle entendait des choses, puis ben pour appuyer tout ça, elle est allée de l'avant, mais elle dit qu'elle n'a pas été traumatisée par ça. Mais elle se retrouve tout de même dans les 9.
On va écouter Julien Lacroix, là, parce que depuis 2 ans, la vie a changé pas mal.
J'ai demandé de faire du bénévolat à 3 places, ils m'ont dit non. J'ai demandé de faire des ateliers, ils m'ont dit non, je peux même... Il y a personne qui veut me faire écrire, il y a personne qui veut me faire travailler, autant dans le milieu qu'ailleurs, là, j'ai envoyé... Il y a personne nulle part. Fait que c'est pas fini, c'est... Puis j'ai l'impression que c'est peut-être le temps, mais que c'est pire en pire. Parce qu'au début, le monde était comme, hey, ça va se placer, blablabla, puis là, c'est même plus ça va se placer, c'est juste silence radio, là. Il y a rien qui... Fait que... Je me tuerai pas parce que j'ai un bébé, puis une chance qui est là. Mais chaque jour, je me dis, tabarnak, ça... Tu sais, la vie, tu te mets des objectifs, tu vas avancer. Je suis comme, mais je veux pas rester chez moi tout le temps. Là.
C'est sûr que les auditeurs ont comme question en tête, OK, il est pas parfait, on l'a dit, là, puis il a probablement posé des gestes là, qui sont dénonçables. Mais la sentence dure combien de temps?
Ben, comme c'est une sentence populaire, on ne le sait pas. Mais à écouter Julien Lacroix parler, il n'y en a pas de fin. Au début, il croyait que ça allait finir par se placer, mais c'est intéressant quand il dit, j'ai l'impression que plus on avance, plus ça empire. Moi, je vois une lumière au bout. Donc, c'est la grande question, puis c'est ce que les filles soulèvent aussi. Est-ce que c'est mieux d'aller en prison? Je pense que Julien, parce que t'es accompagné, t'as des services, tu peux te réhabiliter. Mais lui, il est vraiment seul, sans aide, à la maison, à regarder le plafond. Dès qu'il lève le petit doigt, il y a une réaction. Donc, il a pas l'air d'avoir de fin à ce genre de peine populaire-là.
Mm-hmm. Isabelle?
Ben, c'est un peu ce que... Il y a plusieurs filles, c'est vrai, qui nous ont parlé de ça, qui nous disaient, finalement, s'il y avait eu une sentence, là, avec un début puis une fin, je pense que les gens seraient moins en colère contre lui, puis les gens, je veux dire, les internautes, parce que c'est la meute aussi sur Internet. Là, on vit dans ce monde-là maintenant, mais c'est parce que c'est super violent ce qu'il reçoit sur Internet. À chaque fois qu'il essaie de...
C'est incroyable que des gens qui dénoncent un agresseur potentiel, donc violent, tombe dans la violence, dans le propos puis dans la menace.
Mais c'est beaucoup le regret qu'avait Geneviève Morin, qui a quand même été 6 ans avec lui, puis qui a vécu une relation quand même intense avec lui. Puis elle disait, moi, j'ai dénoncé quelque chose, j'ai dénoncé la violence, puis on répond par la violence, c'est pas ça que je veux, puis lâchez-le. C'est ça qu'elle nous dit aussi. Ouais. Mon message aux gens, là, c'est lâchez-le, Julien Lacroix. Là. Moi, je l'ai rencontré, elle l'a rencontré
cet été,
un peu à la fin d'été. Puis elle a dit, il est plus pareil, là. Il a changé. C'est le gars que j'ai rencontré au départ et de qui je suis tombée amoureuse. Là. Il est là, il est revenu. Donc...
En terminant, il y a le danger, avec un balado puis un document comme ça, de dire, OK, là, est-ce que je parle? Est-ce que je porte plainte? Est-ce que je dénonce? Est-ce que, j'entends des voix qui ont dit, bon, on vous l'avait dit, c'est pas tout vrai, puis il y a beaucoup de vengeance dans certains témoignages.
Du côté de Julien Lacroix, l'impression que moi j'ai eue quand on l'a interviewé, c'est qu'il était pas du tout dans une condition d'attaque. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça se règle. Ce qu'il souhaite, c'est pouvoir rencontrer les personnes qui l'accusent de gestes qu'il aurait posés. Il a rencontré deux de ces femmes-là, Geneviève Morin, son ex-blonde, puis Alice Payé, qui pour ce projet-ci sort de l'anonymat pour raconter, qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Lui, ce qu'il souhaite, c'est les rencontrer, s'excuser s'il y a lieu de s'excuser. Excuser en lien avec les gestes qu'il aurait pu poser. Donc, je le vois pas, lui, de son côté, comme quelqu'un qui a envie de se venger de ces personnes-là.
Non, mais vous pensez pas qu'il y a des gens qui vont être hésités là, à les dénoncer?
Ben, l'idée de ce reportage-là, c'était pas de remettre en question ce type d'enquête journalistique-là. On l'a fait, nous, à la presse aussi. C'était pas de démolir non plus l'enquête du Devoir. Mais on pense que c'est important. Ça fait quand même seulement 5 ans, là, ce mouvement, moi aussi, qui a été lancé aux États-Unis. Il y a 5 ans, récemment, on a souligné l'anniversaire. Puis on pense que c'est important de réfléchir, en fait, aux effets, aux impacts, aux conséquences pour les gens. Tu sais, la présomption d'innocence dans le système de justice traditionnel, ça existe encore.
Ça existe pas bien sur les réseaux sociaux, par exemple.
Non, ça existe pas du tout sur les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est le temps là de poser un regard critique sur ce phénomène-là qui est mondial. Et Julien Lacroix, c'était une façon, c'était un cas de figure, finalement.
Je tiens à préciser que vous avez demandé au Devoir de répondre à vos questions. Ce qui m'a étonné, c'est la réponse, là. C'est-à-dire, on veut voir les questions avant de dire oui ou non. Venant d'un journal, étonnant. Je vais dire ça comme ça pour être gentil et poli, là, mais sérieusement, là, première fois, ça nous arrive souvent que des gens nous demandent des questions puis on dit non, là. Mais qu'un journal, comme le Devoir, exige les questions avant de dire oui ou non, étonnant.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Le premier ministre François Legault était assez clair. Là, il n'est pas question de rendre obligatoire le port du masque, du moins pour l'instant, dans les endroits publics. On verra le point de presse ce matin du directeur national de la Santé publique et du ministre de la Santé. Et on s'attend tous à ce que ce soit une forte recommandation. On va regarder aussi ce matin un peu le bilan de cette pandémie à Montréal avec Dr Mylène Drouin, qui est la directrice pour Montréal de la santé publique. Dr Drouin, bonjour.
Oui, bonjour M. Arcand.
D'abord, peut-on parler du masque comme tel? Vous aussi, je pense que vous souhaitez là que vous allez vers une recommandation du port du masque dans certains cas, en tout cas.
Oui, ben tout à fait. Là, puis je vais quand même laisser Dr Boileau là, faire ses recommandations. Mais c'est sûr que le masque, c'est une mesure barrière qui est efficace, qui est peu coûteuse. Puis dans le contexte où on a vraiment une hausse de l'ensemble des virus respiratoires, on rentre dans une saison, je dirais, grippale, virus syncytial et mélangé avec la COVID. On a cette mesure-là qui est à notre portée, puis ce qu'on va recommander, ou je pense que ce qui devrait être remis dans nos habitudes, c'est vraiment d'utiliser ce masque-là pour se protéger. Puis on le sait, il y a des caractéristiques des lieux qui sont plus à risque quand on est dans un lieu fermé, qui est achalandé avec peu de ventilation, puis qu'on n'est pas capable de garder nos distances avec les gens. Ce sont des lieux à plus haut risque. Et évidemment, le message, ayez en un toujours dans votre sacoche, dans vos poches, sachant évidemment que vous pouvez aller dans des endroits plus à risque. Puis si vous avez des symptômes, on vous demande évidemment, même si le test COVID n'est pas arrivé positif, de porter le masque pour protéger les autres. Évidemment, ça c'est autant à l'école, au travail, que dans les lieux publics. Et ceux qui sont vulnérables, ils se connaissent, allez chercher votre vaccin, portez-le. Là, on est dans la saison. Donc, on l'a vu pendant la pandémie, la perception du risque, lorsqu'elle augmente, les gens ont tendance à remettre en place les mesures de prévention. Donc, c'est le temps de le faire là, actuellement.
Je vous pose une question parce que je reçois une tonne de courriels qui soulèvent des hypothèses, puis je veux avoir votre réponse là-dessus. Là, il y a beaucoup de gens qui disent, on le voit avec la vague qui touche les enfants cette année, ils n'ont pas été exposés, ils ont donc un système immunitaire qui n'est pas en mesure de réagir au virus là, qui frappe tant d'enfants. Bref, porter le masque retarde le développement d'un système immunitaire efficace contre les virus.
Ça, c'est une grande question là. Oui, de toute manière, actuellement, la vague qu'on a chez les jeunes enfants, ce sont vraiment des jeunes enfants entre autres là. Donc, c'est sûr que le masque a évité les dernières saisons. Puis les dernières saisons, on a eu très peu d'influenza, de virus syncytial qui ont circulé. Et ça, c'était le port du masque généralisé à l'ensemble des lieux et de la population. Actuellement, ce qu'on voit, puis ce qui déborde dans nos urgences, c'est beaucoup des jeunes enfants, moins d'un an, moins de 6 mois, beaucoup de virus syncytial. Et le message va être aussi aux parents de les protéger, ces enfants-là. Donc, réduire les contacts, réduire les visites, c'est pas nécessaire, de s'assurer que les gens qui viennent visiter à la maison ne sont pas symptomatiques, et les parents peuvent aussi aller chercher leur vaccination, évidemment. Mais somme toute, je pense que actuellement, avec la surcharge de la capacité hospitalière, ce qu'on souhaite, c'est surtout étaler. La vague va être là, le virus va continuer de circuler, mais si on est capable d'éviter un pic trop important qui va nous amener
Ma question, c'est, est-ce que si je porte un masque, je retarde le développement de mon système immunitaire, je retarde l'installation d'une meilleure défense?
Pour les enfants, mais actuellement...
Mais pour les adultes, mettons?
Les adultes, on a déjà le vaccin là, donc non, je pense que c'est peut-être un lien trop direct là pour penser que ça va réduire notre capacité de développer là notre système immunitaire. C'est sûr que les jeunes enfants n'ont pas été exposés là dans les garderies et tout ça dans les 2 dernières années à tous les virus. Clairement, ils vont l'être dans les prochains mois probablement. Mais pour les adultes, je pense que le mieux est l'immunité conférée par le vaccin et certainement la meilleure voie.
OK. Dans le rapport que vous avez présenté, bon, il y a tout le volet, là, gestion sur le terrain, les personnes âgées qui ont été décimées, là, au début surtout de la pandémie. Mais il y a un volet sur lequel vous insistez puis qui est important, là, ce sont les dommages collatéraux, c'est-à-dire l'impact, par exemple, de l'anxiété, l'impact des mesures sanitaires, du confinement chez les personnes qui vivent seuls et même en couple, il y a eu quand même des effets mesurables.
Tout à fait. On a essayé du mieux qu'on pouvait parce qu'on n'avait pas de système de surveillance bien ficelé pour ces impacts collatéraux, mais on l'a vu au niveau de l'anxiété, de la dépression chez nos jeunes adultes. Il y a clairement eu des impacts significatifs qui étaient exacerbés durant les périodes de confinement. On a vu aussi des indicateurs de facteurs de risque de violence conjugale et même l'incidence de la violence conjugale ou plutôt la prévalence durant les périodes de confinement qui était accrue dans la région de Montréal, l'insécurité alimentaire, la consommation d'alcool et de cannabis qui a augmenté, la consommation journalière. Donc, on a tous ces effets-là qu'on a captés. Et je pense que c'est important, puis c'est un peu la façon dont on va le réfléchir dans nos futurs plans, c'est d'intégrer des objectifs et des mesures qui vont nous permettre de contrôler la menace qui peut être un agent infectieux comme une pandémie, mais en même temps de tenir compte de ses impacts collatéraux. Une des choses qu'on a fait très bien, c'était de maintenir nos écoles ouvertes. Parce qu'on aurait pu dire on contrôle que la menace et on ferme les écoles. Donc, ça a été un objectif qu'on s'est fixé dès le départ et on a réussi, somme toute, à les maintenir. Donc, il faut le réfléchir sur d'autres impacts collatéraux. Qu'est-ce qu'on met en place pour les éviter pendant la crise?
On était moins bon dans quoi?
Mais c'est sûr que je reviendrai pas sur la première vague. Je pense que notre système d'alerte et évidemment certains éléments là de disponibilité pour le dépistage, l'approvisionnement
en
matériel de protection était pas là. Fait que ça c'est sûr. Comme je le disais, notre capacité à jauger les impacts collatéraux et l'exacerbation des inégalités, on l'a fait, mais je pense qu'on peut faire mieux. Puis je dirais l'autre grand constat, puis cette façon qu'on veut changer nos façons de travailler, c'est sûr qu'en mesure d'urgence, c'est très top-down, puis c'est normal, on a un centre de commandement, puis il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait des décisions qui se prennent. Mais on s'est rendu compte que dans une région, en tout cas comme Montréal, on doit aussi travailler avec les communautés, avoir des cellules de crise locales, la mobilisation des communautés qui nous amène à cogner aux portes, à aller faire du démarchage, à adapter nos mesures, puis à faire en sorte que à diminuer les barrières d'accès aux mesures de prévention ou de protection et que nos messages se rendent aux gens. Et ça, ben, il faut le financer, il faut le soutenir, il faut le construire, ce système-là qui doit s'activer dès la première journée d'une crise.
Merci, Dr. Drouin. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Dr. Mylène Drouin, qui est la directrice de la santé publique pour Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, scène internationale, deux événements. On l'a vu hier, un missile qui a touché la Pologne, deux morts, dit-on. Et depuis hier, on s'interroge. Ce missile a été tiré par qui? Au début, évidemment, les doigts étaient pointés vers la Russie. Et puis dans les dernières heures, tout indique qu'il s'agirait davantage donc d'un missile tiré par la défense ukrainienne. On va y revenir dans deux instants avec Charles Philippe, mais d'abord Donald Trump, qui, c'était prévu, annonce sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Charles Philippe David est avec nous. Charles Philippe, bonjour.
Bonjour Paul.
Alors donc, pas de surprise, Monsieur Trump a fait son discours pour nous annoncer qu'il serait fier candidat.
Oui, il a été complètement déclassé par le missile, Paul, franchement. Mais quand même, oui, on en parle ce matin. Cependant, pas tout en bien. Franchement, je ne sais pas si vous l'avez écouté, Paul, ce discours, mais il était presque soporifique. Ce n'était pas un Donald Trump en pleine forme. Il a lu, en fait, son discours très largement. Et Trump n'est pas à son meilleur, comme l'ont souligné bien des gens, quand il lit ses discours. Donc, oui, sa base, évidemment, est très contente et on parle quand même de pas mal de millions d'Américains qui sont sans doute contents de le voir arriver ou revenir sur scène. Mais il y a aussi pas mal de Républicains qui sont franchement très inquiets par cette annonce et qui pensent qu'en fait, il risque de peut-être même couler le navire dans deux ans. Surtout après les élections, après les résultats de mardi dernier et depuis mardi dernier, on ne peut pas dire que le mouvement de Trump ait réussi aussi bien qu'il l'espérait à faire élire ses candidats pour pouvoir prendre un petit peu contrôle clé en main du processus électoral dans deux ans. Donc je m'attends à ce que, en fait, cette situation soit très volatile. On va attendre aussi de voir si d'autres candidats vont se présenter, comme on en parlait déjà. Le gouverneur de l'État de Floride, Ron DeSantis, je pense, est en train de calculer ou de mesurer ses chances face à Donald Trump. Et n'oublions quand même pas le vice-président Mike Pence, qui a publié ses mémoires depuis hier et qui fait le tour de tous les réseaux, de tous les médias, et clairement qui nous fait comprendre que les Américains ont d'autres choix qui s'offrent à eux, d'autres alternatives que celles de Donald Trump. Donc, même Mike Pence, évidemment, prend grandement ses distances face à son ancien président. C'est une situation très volatile et qui risque de diviser le Parti républicain. Et cela, moi, je pense, pour l'instant, ne peut qu'aider le Parti démocrate.
Est-ce qu'il se présente vraiment pour faire bataille contre Joe Biden ou si, en même temps, c'est pas un moyen pour lui de, je dirais, mettre au neutre ou retarder les nombreuses enquêtes qui le concernent?
Oui, d'ailleurs, c'est la thèse de Maggie Haberman, la grande journaliste du New York Times qui a publié un livre, un vrai pavé sur la présidence de Donald Trump, que j'invite tout le monde à lire parce que c'est vraiment très, 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 très extraordinaire comme livre qui révèle la personnalité de Donald Trump. Et au fond, sa conclusion essentiellement est de dire il veut retrouver, regagner le pouvoir parce qu'il aime avoir le pouvoir. Mais le petit côté pratique d'avoir le pouvoir, c'est de se soustraire aux résultats de toutes ces enquêtes qui sont en cours, Paul, contre lui, et qui vont risquer finalement, à un moment donné, d'aboutir, du moins, c'est ce à quoi on s'attend, à une mise en accusation, que ce soit sur le plan de la fraude fiscale ou l'ingérence dans l'élection de 2020. D'ailleurs, parlant de l'élection de 2020, il y a un autre, quand même, une autre observation que je ferai de ce discours d'hier, c'est qu'il a très peu exploité, très peu mentionné là, l'idée du grand, de sa grande défaite de 2020 qui aurait dû être une victoire parce que il y a eu fraude électorale. Alors, ce qu'on appelle le grand mensonge, eh bien, Donald Trump n'a pas vraiment beaucoup parlé de ça hier. Donc, je pense qu'il a au moins compris qu'en véhiculant cette thèse, il a vraiment plombé les chances de gagner de ses candidats aux élections d'il y a une semaine. Donc, on verra où on va avec ça, mais il est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enquêtes en cours qui peuvent encore aboutir.
Parlons de ce missile en Pologne. On en sait un peu plus ce matin. Là, il semble que c'est un missile tiré de l'Ukraine.
Ben, deux choses. La première, c'est que, oui, c'est un missile, semble-t-il, de fabrication russe. Ce sont des missiles imprécis, donc qui peuvent ne pas du tout aboutir là où ils doivent aboutir. Et donc, j'ai l'impression, on a vraiment deux hypothèses, un missile russe lancé depuis un territoire occupé par la Russie, ou alors, effectivement, un missile antimissile, donc appartenant à la défense antimissile ukrainienne, qui aurait complètement dévié de sa course et donc frappé cette ferme en Pologne. Il semble effectivement que cette deuxième thèse soit beaucoup plus probable selon les services de renseignement américains qui ont quand même dû convaincre assez suffisamment Joe Biden pour qu'il déclare hier que c'était improbable, vu la trajectoire du missile, que celui-ci provienne du territoire russe. Mais en tous les cas, il est clair qu'on voit bien à quel point un événement comme celui-là, bien qu'accidentel, provoque beaucoup d'émoi au sein des alliés de l'Ukraine et au sein de l'OTAN particulièrement.
Merci beaucoup, Charles-Philippe. Bonne journée. Charles-Philippe David est fondateur de la chaire Houle dans Durand et président de l'Observatoire des États-Unis à l'Université du Québec à Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On a souvent parlé du phénomène no-show, c'est-à-dire des gens qui réservent dans des restaurants, qui se présentent pas et qui surtout n'appellent pas pour annuler. Et ça représente évidemment des pertes pour les propriétaires de restaurants. Et là, la question, est-ce qu'on peut légalement dire à un client, si vous réservez samedi soir pour 4 personnes puis que vous vous présentez pas, vous serez financièrement pénalisé. Il y a comme une amende de rattacher à ça. Et l'Association Restauration Québec demande au gouvernement d'intervenir pour, disons, clarifier la situation légale concernant ce genre de pratique. Martin Vézina est le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'association. Il était avec nous. Monsieur Vézina, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, d'abord, légalement, là, si j'ai un restaurant, est-ce que j'ai le droit d'ajouter un montant pour pénaliser ceux qui réservent, qui se présentent pas puis qui n'ont pas annulé?
En fait, non. Avec la loi sur la protection du consommateur, on peut pas facturer des frais à un client qui ne se présente pas à sa réservation. Le seul bémol qu'on peut mettre, c'est par exemple, on a un groupe où il y a un contrat écrit, dans ce cas-là, avec un dépôt qui peut être retenu si le client se présente pas. Dans ce cas-là, ça fonctionne, mais il faut un contrat écrit. Chose qu'on ne verra pas quand quelqu'un veut réserver une table pour deux un vendredi.
OK, mais dans les faits, là, il y en a des restaurants qui commencent à introduire cette pratique-là?
Dans les faits, oui, j'ai écho que des restaurants le font, mais comme vous dites, on ne peut pas facturer des frais. Il y a une politique, par contre, qui peut être faite et qui est valable et que l'Office de la protection du consommateur est d'accord, c'est-à-dire de demander le numéro de carte de crédit, mais de rien faire après, mais juste d'évaluer le côté sérieux du client dans sa réservation. On peut demander le numéro de carte de crédit, mais on peut pas facturer des frais sur celle-ci.
OK, mais je veux pas partir une guerre, là, mais il y a des établissements qui t'avertissent, là, puis je les nommerai pas, mais tu sais, qui disent, si tu te présentes pas, ben c'est 25 $ de dédommagement. C'est, puis j'ai vu ailleurs dans le monde des montants encore plus importants que ça, là, de 100 $ si tu te présentes pas. Parce que quand tu réserves, tu prends la place, j'achète en conséquence, je prépare en conséquence. Si tu te pointes pas, ben j'assume la perte, là.
Ben tout à fait. Le no-show est problématique. Parce que pour un restaurateur, la réservation, c'est pas juste un service client, là, c'est aussi un outil de planification. On peut déterminer le nombre de commandes qu'on fait, la nourriture qu'on a besoin, le nombre de personnel à assigner. Donc, si les gens se présentent pas à un certain fort volume, ben c'est toutes des pertes sèches pour le restaurateur. Et quand vous dites à l'international, vous avez vu des frais beaucoup plus élevés, ben oui, c'est possible à l'international. C'est au Québec, avec la loi sur la protection du consommateur, qui nous permet pas. On est la seule province là, qui est dans ce cadre-là.
Est-ce que le phénomène, vous l'avez quantifié? On parle d'anecdotes ou vraiment là de cas à répétition?
Bien, depuis quelques semaines, là, on a beaucoup d'échos, beaucoup d'appels à l'association sur ce volet-là, où on voit beaucoup de restaurateurs, de restauratrices qui se disent il y a beaucoup de clients qui ne se présentent pas à leur réservation. En 2017-2018, on avait eu écho aussi, on a travaillé de dossiers, mais c'était essentiellement montréalais comme phénomène, mais de plus en plus, on le voit à Québec, à Trois-Rivières, à Gatineau, donc ça a pris de l'ampleur dans l'ensemble de la province.
OK, et là, vous demandez au ministre Jolin Barrette de modifier la loi. Est-ce que vous avez eu des échos? Est-ce que vous savez si on achète la thèse?
Là, présentement, on attend un retour du cabinet du ministre Jolin Barrette à cet effet, mais on l'a interpellé il y a deux semaines à cet effet là, avec sa nouvelle nomination. On s'entend sa rénomination là, comme ministre de la Justice, mais là, on attend un appel qu'on souhaite favorable à cet effet.
OK. Merci beaucoup, M. Vézina.
Merci à vous.
Au revoir. Martin Vézina est vice-président aux affaires publiques gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Mais sérieusement, pour un certain nombre de restaurateurs, ça peut devenir un casse-tête. Je me souviens d'un restaurateur qui s'est retrouvé avec 7-8 réservations annulées le samedi soir. Mais quand je dis annulées, là, c'est que les gens se pointent pas. Puis t'as beau essayer de les joindre après. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens souvent? Ils vont réserver le même soir, même heure, 2-3 restaurants. Puis il m'a décidé après. Tu sais, moi, ça m'est arrivé de réserver puis d'annuler parce que j'avais un contretemps. Puis je peux vous dire que la personne à l'autre bout vous remercie en disant « Tu ne viens pas, je vais pouvoir donner ta table à quelqu'un d'autre. » Mais il y a quand même un minimum de respect. Tu sais, il semble que je prends la peine de réserver puis tu peux pas y aller. D'annuler, c'est juste une manifestation minimale de politesse.
L'essentiel de Paul Arcand.